Merci de nous rappeler.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, une émission sous double label, si j'ose dire. Philanthropie de l'ouvrier charpentier des chroniques syndicales. Sachant que Philippe n'est pas là aujourd'hui, mais un autre Philippe, j'y reviendrai, va très largement le remplacer. Et bien, on va parler justement avec le second Philippe, Philippe Partière, la mine en procès, Fourquier les lances, 1970. Tout ça va s'éclairer. Voilà. Radio Libertaire 89.4, donc après le petit tunnel de tout à l'heure, mais c'était pour rentrer dans la mine, donc c'est bien normal qu'on fasse un tunnel. On va évoquer avec Philippe Partière un ouvrage qu'il a très largement piloté, même s'il y a quelques contributions dont il parlera tout à l'heure, la mine en procès autour d'une catastrophe, l'une des dernières catastrophes minières en France tout au moins, Fourquier les lances, 1970. Voilà. Philippe, bienvenue sur Radio Libertaire. Tu nous dis peut-être un petit peu qui tu es et surtout quel a été ce projet de livre-là, qui est un livre, je le répéterai encore, aux éditions Anna Mossa, qui est un bel objet. C'est pas simplement un livre, il y a des photos, des témoignages, des documents inédits, des choses comme ça. C'est donc tout à fait précieux.
Oui, bonjour. Ça me fait très plaisir de venir parler, en fait, pour la première fois du livre sur Radio Libertaire et peut-être d'expliquer effectivement la genèse du livre et d'abord ce qu'est ce livre, c'est-à-dire c'est un livre sur ce moment, disons 1970 à partir de la catastrophe de Fourquier qui a lieu le 4 février 70 donc à Fourquier-les-Lances dans le Pas-de-Calais où il y a 16 morts au fond. C'est un livre qu'on a voulu avec les éditions Anamosa, d'abord un livre ressource. Et moi, j'aime bien ça. Enfin, pour moi, c'est important de faire des livres ressources, à savoir que c'est un livre qui rassemble des éclairages historiques, évidemment, une contextualisation, mais aussi avec des documents dedans, et des documents dans leur intégralité. C'est-à-dire que, on y reviendra, mais il y a notamment tout un ensemble de minutes d'un procès, d'un tribunal populaire qui sont là. Il y a des documents aussi iconographiques en intégralité. C'est pas juste une image, c'est pas une illustration. C'est vraiment l'idée de partager des archives et qui est, pour moi, historien, une chose très, très importante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était aussi de faire un livre polyphonique. C'est-à-dire un livre à plusieurs voix, un livre qui ne soit pas un historien ou une historienne qui est là et qui, de son autorité de chercheur, énonce un récit, mais plutôt qu'on entende un certain nombre de voix. C'est pour ça que au cœur du livre, il y a notamment le témoignage d'un des acteurs, qui est Bernard Leroy. Qui était à l'époque ingénieur des mines à Paris et qui est très important dans la contre-enquête et dans la contestation au fond des causes de cette catastrophe. Enfin, c'est un livre qui pour moi s'inscrit dans un ensemble de travaux qui ont commencé il y a longtemps. Et qui sont liés bizarrement à ce qu'a pu, moi je suis né en 68, et ce qui a pu constituer probablement un des événements majeurs de ma génération, qui est l'épidémie à VIH, l'épidémie de sida.
Bien sûr, ouais.
Pour une raison assez simple en fait, hein, c'est que au début des années 90, donc c'est un livre en fait qui a, enfin l'histoire de Fouquière, je la connais depuis le début des années disons le milieu des années 80.
T'es originaire du Nord ou non?
Non,
pas vraiment.
Non, je suis pas originaire du Nord, mais il se trouve que j'avais un père qui a travaillé au Houillères de Lorraine pendant un certain nombre d'années. Et donc la mine, la grève, la fameuse grève de 63, c'est des choses dont j'avais entendu parler. La grève de 63, c'est la dernière grande grève des mineurs, hein. C'est la grève victorieuse, puisque les mineurs obtiennent une augmentation de salaire assez considérable, mais c'est aussi le moment en 63 où De Gaulle dit cet hiver les mineurs ont gagné, mais le charbon c'est fini. C'est le début de l'abandon du charbon. Le charbon, la houille comme on disait, qui avait été un des éléments majeurs de la reconstruction après 45.
Oui, on parlait même de la bataille du charbon.
Ouais. Ouais. C'est l'expression, oui, et l'expression est d'ailleurs gouvernementale. Hein. C'est la bataille du charbon. Donc, en fait, les personnes dont on va parler aujourd'hui, les sujets dont on va parler aujourd'hui, les mineurs, sont les acteurs principaux, que ce soit dans le Nord, puisqu'il y avait au moins trois grands bassins, hein, celui du Nord, Pas-de-Calais, celui de l'Est, de la Lorraine, celui de Saint-Étienne, et puis un autre, quatrième, à Alès, la Grand-Combe, qui sont des bassins qui ont été très, très actifs au 19e, fin 19e. Depuis 20e.
En même temps que la montée de la sidérurgie et de la métallurgie, quoi. Voilà. Hein, ça se conjugue, ça. Des mineurs en grève, qui avaient fait aussi une belle grève 47-48 aussi, qu'on peut peut-être évoquer.
Oui, il y a peut-être dans l'histoire l'histoire sociale des mines, on reparlera des catastrophes, mais il y a des grandes grèves. Il y a une grève qui est majeure et qui va jouer un rôle. Au moment de Fouquière, c'est la grève patriotique de 1941. C'est-à-dire, c'est une grève des mineurs contre le contre l'occupation. Hein.
Ouais. Sachant que l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais est une occupation particulière, puisqu'ils sont en zone allemande et non pas simplement en zone occupée.
Exactement. Et donc ça, c'est la grève. Et puis après, il y a une grève juste après-guerre, 47 et 48. C'est 47, c'est la grève, on l'oublie souvent, c'est la grève en fait où naît ce slogan qu'on attribue à 68, qui est CRSSS. Hein, cette grève-là, enfin c'est ce moment-là, ces deux moments sont dans l'histoire des mines, mais au-delà de l'histoire des mines, des grèves, légendaires, et une des choses qui va se passer à Fouquier, c'est aussi réactiver cette mémoire-là, cette histoire-là, qui est déjà quand même très très présente, puisque pour replacer les choses, en 1970, on est 8 ans après les accords d'Évian, donc à la fin de la guerre d'Algérie. Mais en 70, on n'est que 25 ans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est tout près. La guerre est tout près. D'où aussi la récurrence d'un discours de résistance et du discours de la résistance et de la résistance ouvrière. Ça, c'est vraiment une chose importante. Je reviens un instant sur ce que je disais sur la genèse du livre et sur le fait que pour moi, ça apparaît au début des années 90. À l'époque, je suis objecteur de conscience au Conseil national du SIDA. Et je rencontre, je vois plus souvent quelqu'un qui est mort il y a un mois maintenant, qui est Daniel Defer.
Mm-hmm. Donc le compagnon de...
Oui, c'est pas seulement le compagnon de...
Moi, c'est aussi
de
un Michel philosophe, Foucault. Un écrivain.
C'est aussi le fondateur de l'association AIDE. Mm-hmm. Et en tant que fondateur de l'association AIDE, et avant ça, en tant que militant du groupe Information Prison, puisque c'est un des principaux acteurs du groupe Information Prison, parce qu'il y avait trois grands noms, hein, qui étaient Jean-Marie Domenac, Pierre Vidal-Naquet et Michel Foucault. Il y a beaucoup de militants.
Ouais, dont Serge Livrezet, qui nous a quittés il y a très peu de temps.
Dont Serge Livrezet. Qui après va créer le comité d'action prisonnier, ouais. Et dont Daniel Defer. Et Daniel Defer est allé, en fait, à Fouquier, est allé au tribunal populaire qui est organisé à la suite donc de la catastrophe, en 6-7 mois plus tard. Si je dis ça, c'est que, en fait, cette histoire de Fouquier, elle est tout à fait, comment dire, elle n'est pas un événement du passé, mais elle ne cesse de se rappeler à nous. Et un des enjeux du livre, c'est aussi une transmission de l'histoire des luttes et de l'histoire de la manière, parce que très singulière, dont cette lutte-là s'est organisée, ce soulèvement-là s'est organisé.
Radio Libertaire 89.4.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous
regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans.
Et vous, les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre. À tous les collabos, nous on fera la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans.
Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères. Tous unis avec eux, on vous déclare la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans.
Voilà donc Radio Libertaire 89.4, la philanthropie de l'ouvrier charpentier et des chroniques syndicales autour du livre de Philippe Artière et de quelques autres dont on évoquera le talent tout à l'heure. La mine en procès, Fouquier les lances, 1970. Voilà. Et tu disais que cette révolte autour de cette catastrophe-là renvoyait à la libération, renvoyé aux partisans, et Dominique Grange, qui était à la gauche prolétarienne à l'époque, a parfaitement illustré ce propos. Avant de rentrer dans le livre lui-même et la catastrophe de Fouquier en 70, qui est l'avant-dernière grande catastrophe minière en France, peut-être que tu pourrais rappeler quelques-unes de ces catastrophes, sachant que tu écris quelque part qu'en un siècle, la mine a fait 200 000 morts, ce qui n'est pas rien, et 15 millions de blessés.
Oui, c'est pas pour toutes les personnes qui connaissent l'histoire sociale. On sait d'abord l'importance de la mine dans le paysage industriel français depuis la fin du 18e siècle. Et cette histoire-là, cette histoire sous terre, hein, c'est une histoire souterraine. Il faut quand même rappeler ces conditions de travail complètement dingues, de descendre chaque jour sous terre,
très loin, entre 600 mètres et 1 km sous terre, c'est fou quoi.
Sous terre, dans des conditions qui sont, on l'oublie parfois, mais en fait, plus on descend, plus il fait chaud. Il fait pas froid, il fait chaud sous terre. Il fait 40 degrés, il fait 42 degrés. C'est vraiment à Fouquier, il faisait 40 degrés. Donc c'était des conditions absolument terribles. Dans les catastrophes que je vais évoquer, alors il y a plus d'enfants et de femmes en bas, hein, mais ils travaillent encore dans les mines. Et la plus célèbre, évidemment, c'est celle de Courrières. Et avec ces 1100 morts une explosion de grisou.
Alors le grisou étant, pour les auditeurs qui sont peut-être pas mineurs, c'est du gaz Voilà. Le gaz est enflammable et le gaz explose quelquefois dans les, voilà, dans les souterrains.
Le gaz à un certain seuil explose. Et il explose avec la moindre
étincelle.
Ce qui fait qu'on essaye vaguement d'essayer de limiter ce risque-là, et que les écoles des mines, hein, qui sont fondées au 19e siècle, sont des écoles qui sont censées travailler aussi sur la sécurisation des conditions de travail. Alors, il y a eu plusieurs dispositifs, mais ça va jusqu'à l'oiseau, hein, à l'oiseau qu'on met en bas et qui, moins il a d'oxygène, moins il chante, en fait. Oui.
Ou les petits chiens en Angleterre, voilà, les Yorkshire, qui, voilà, crevaient les premiers parce que le gaz a tendance à stagner, voilà, par terre d'abord, quoi.
Alors, il y a ça, et puis après, il y a d'autres dispositifs, grisomètres, hein, qui permettent d'établir normalement les conditions de travail où c'est possible, où il n'y a pas de risque. Sachant qu'il y a, en outre, un autre dispositif qui consiste à c'est même une fonction, c'est des bouts de feu, hein, qui sont là pour voir si c'est pas inflammable, enfin, et qui ont ces fameuses lampes qui, dont la variation montre le risque. Bon, alors ces catastrophes, elles, malgré ces dispositifs qui s'élaborent, elles sont en fait tout au long du XXe siècle, en France, en Belgique aussi. Enfin, je ne vais pas parler de la Belgique, je ne vais pas parler d'autres grands, en Allemagne aussi, énormes. Elles sont énormes en termes de victimes. Si on prend pour l'après-guerre, en fait, en regardant les chronologies, et vous pouvez le faire très facilement, parce qu'il y a une mémoire, hein, il faut dire aussi que ce livre n'arrive pas comme ça, il révèle pas une histoire qui n'était pas connue. Il y a eu beaucoup de travaux en histoire sociale, sur l'histoire des mines, sur l'histoire des grèves dans les mines. Bon, évidemment, je pense à un professeur, celui qui m'a formé, auquel j'ai fait ma thèse, Michel Perrault, qui a commencé par une histoire des grèves. Et évidemment, la mine est un de ces hauts lieux. On en a parlé tout à l'heure. Mais pour simplement citer quelques catastrophes, il y a en 65 à Avion, donc pas très loin du tout de Fouquières, une catastrophe qui fait 21 morts. Et puis après, il y a 74, hein, Liévin, avec ses 42 morts. C'est il y a même pas 50 ans. Hein,
ouais, donc c'était très récurrent.
Et puis, c'est très récurrent, et quand on regarde les rapports des houillères, avant qu'il y ait les charbonnages de France, quand on regarde c'est pas forcément des dizaines et des centaines de morts, mais c'est des morts quasiment chaque semaine, chaque mois. Ici, un éboulement, là, parce qu'il n'y a pas seulement le grisou, il y a les éboulements. Il y a ce grand mal qu'évoque Dominique Grange dans sa chanson, la silicose. Et on considère, alors c'est un terme qui, enfin, c'est une comparaison qui est très forte, et qui est liée aussi à la chanson de Nous sommes les nouveaux partisans, parce que on dit, il y a un oradour par an dans les mines. C'est l'expression qui est, alors, oradour, bon, vous savez que c'est ce massacre,
un village martyr,
un, ouais, village martyr,
où les nazis, oui, voilà, massacraient tout le monde dans l'église, quoi.
Voilà. Donc c'est absolument central de rappeler qu'en fait, Fouquières, quand survient donc le 4 février cette catastrophe, il y a toute cette histoire-là qui est derrière, qui est une histoire qui est largement d'ailleurs marquée politiquement par le Parti communiste. et par la CGT qui est très présente. Donc c'est un mouvement ouvrier qui est très largement et d'ailleurs un certain nombre d'acteurs ont été communistes ou le sont encore, mais ont pris leur distance avec la CGT, parce que Fouquier a une particularité, c'est que ce n'est pas une commune communiste. Et ça, c'est un des points qui fait aussi que cette mobilisation, ce que j'ai appelé un soulèvement, hein, puisque c'est bien de cet ordre-là, hein, c'est un effondrement et un soulèvement, hein, d'un effondrement faire un soulèvement, c'est comme ça que j'ai essayé d'introduire le propos, c'est voir comment, à un moment donné, des acteurs deviennent des sujets d'histoire et se constituent en sujet, se font entendre.
Se font entendre, oui. Peut-être rappeler, donc on a évoqué quelques grandes catastrophes, la catastrophe elle-même, c'est une déflagration de Grisou, mais c'est sans doute du fait que le Grisoumètre, en l'occurrence, n'est pas bien fonctionné, ou que les ventilateurs n'aient pas été installés, et que pour des raisons de productivité, gagner de l'argent pour les mines, eh bien on va quand même faire descendre les hommes au fond, et que la catastrophe va se produire.
Oui, alors Bernard Leroy l'analyse très longuement dans un entretien que j'ai mené avec lui sur les causes de la catastrophe, parce que
lui est
ingénieur des mines et il va témoigner. Ce qui se passe en fait, c'est que il y a un problème de ventilation dans cette galerie. Il y a un ventilateur qui doit être réparé. Ce ventilateur n'est pas réparé à temps. Et donc, on fait descendre le matin les mineurs en bas, au fond. On les met pas, ils commencent pas à travailler, mais ils attendent. Et le ventilateur est toujours pas. Est toujours pas remis en marche. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, comme il n'y a pas cette aération, le taux de grisou s'élève. Et au bout d'un moment, il y a un incident qui fait que ça explose. L'incident, c'est une étincelle. Alors, ce qui s'est passé véritablement. Et les hypothèses sur l'étincelle, en fait, personne ne peut les valider, puisque en fait, l'ensemble des acteurs qui ont la responsabilité, notamment de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'étincelle, etc., sont tous morts. Hein. J'ai parlé des bouts de feu, ils meurent, ils font partie des 16 qui meurent. Et pareil pour celui qui est mis en cause, en fait, comme étant un peu responsable de l'étincelle, histoire de chariot, enfin de câble. Donc, ça, c'est très important, parce que c'est à la fois. Ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est un souci d'abord de rentabilité, d'abord de productivité, et puis c'est aussi un déni des conditions de travail, quoi. Un déni et on fait descendre alors qu'on sait. C'est ce qui va motiver ensuite très fortement les jeunes étudiants de l'école des mines quand ils vont décider de prendre part à ce combat. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais en fait nous, on est rentrés dans cette école non pas pour assassiner des mineurs, mais pour travailler à la question de la production minière.
C'est un mouvement un peu similaire à celui qu'on a vu à AgroParisTech ou à Polytechnique, où des jeunes gens très bien formés dans les grandes écoles disent, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On ne sert que le capital, en gros, ou la productivité, quoi.
Ouais. C'est ce que souligne, c'est vraiment le sens du texte, un des aspects de la post-faste. que Michel Zancarini-Fournel a rédigé. Michel Zancarini-Fournel, c'est une historienne du mouvement social, une historienne des femmes, avec qui on avait co-dirigé une histoire de 68 à la Découverte, qui s'appelait 68, une histoire collective, et avec qui j'avais travaillé précédemment sur le groupe Information Prison, mais il y a plus de 20 ans maintenant, et sur justement des archives aussi comme ça. Et ce que dit Michel, de manière très précise, c'est qu'elle montre comment un certain nombre de ces jeunes étudiants bifurquent, ou tout au moins se objectent, en disant, nous, à l'agro, on ne veut plus travailler pour l'agroalimentaire.
Ah oui, à l'agro, tu peux parler
agro-paritech. Ouais. On ne va pas travailler pour, pour la monoculture, etc. C'est pas ça qu'on veut faire. Et de même, certains X polytechniciens, jeunes polytechniciens, disent non, nous, on veut pas participer de ce libéralisme-là. Et ça, c'est ce qui a motivé. Alors, dans des conditions qui sont tout autres, hein, il s'agit absolument pas de faire d'anachronisme. On est en 1970. On est deux ans après 70, on est dans un moment où là il y a quand même une politisation très forte. L'école des mines, c'est une école extrêmement prestigieuse, mais dont un certain nombre de militants iconiques des années 60 sont sortis. Alain Gesmard, qui a à la fois été président de l'UNEF, c'est-à-dire du syndicat étudiant, pendant la guerre d'Algérie. Lui, c'est un ancien des mines de Nancy, de l'école des mines de Nancy. Alors, il y a Gilbert Castro, qui est le frère de Roland Castro, qui vient de mourir. Lui aussi, il est engagé politiquement. Il va être un des acteurs de la gauche prolétarienne, sur laquelle on va revenir, qui est cette organisation maoïste qui naît dans l'après 68 et qui va être interdite à partir du début des années 70. Bernard Leroy, il est aussi Mao. C'est-à-dire que lui, il est rentré en 1965 en fait à l'école des mines. Donc il est encore à l'école des mines, mais il est plus étudiant. Et puis après, il y a plein de militants de base, ce qu'on appelait des militants de base, qui sont des militants qui disons naviguent entre différentes organisations et qui participent de ce qui va se constituer à partir de début 70, reconstitué d'une certaine manière, c'est-à-dire le Secours Rouge, une organisation en fait un peu transversale, qui regroupe plein de mouvances différentes.
Et qui avait existé avant-guerre, en soutien aux militants révolutionnaires, emprisonnés ou maltraités.
Voilà, donc celle-là aussi, c'est ça qui est toujours intéressant dans l'histoire qui nous intéresse et qui nous réunit, c'est le fait qu'il y a des mémoires qui se mêlent, il y a des mémoires aussi qui se transmettent, et la présence par exemple au procès de Génie Canfin, qui est une résistante, une résistance du Nord, qui a ses fils qui ont travaillé dans les mines, son mari qui est, cette inscription dans les terrils, elle est aussi très forte.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs. C'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond.
R89.4, les chroniques syndicales et la philanthropie de l'ouvrier charpentier, autour d'un ouvrage de Philippe Artière et de quelques complices, La mine en procès, Fouquier-les-Lances, 1970, donc cette catastrophe minière qui a fait 16 morts. Et ce qui est tout à fait étonnant, alors tu disais que Fouquier n'était pas une ville communiste, mais on aurait quand même pu s'attendre à ce que la CGT soit extrêmement active pour dénoncer le patron minier qui était l'État, et quand en fait cette CGT va être tout à fait insipide, et c'est des jeunes gens maoïstes de l'époque, de la gauche prolétarienne, qui vont très largement se mobiliser, ou tenter de mobiliser la population autour de cette catastrophe. Voilà. Alors, on peut être étonné, parce que cette CGT des mines a été au moins pour une part d'entre elles, alors il y a toujours eu des mineurs réformistes, mais a été très révolutionnaire à un temps, au moins du temps de Brouchot, qui était un militant anarchiste, qui a monté le syndicat ou une partie des syndicats de miniers.
Oui, alors pour être totalement, pour être vraiment juste, ce serait faux de dire que la CGT n'a rien fait au moment de la catastrophe de Fouquier. D'abord, c'est pas rien. Dès l'annonce de la catastrophe, 70 000 quand même mineurs de France s'arrêtent et se mettent en grève. C'est pas un petit événement, 70 000 personnes, qui, ça s'appelle une grève générale. Pas une grève généralisée, une grève générale. Donc, c'est une chose qu'il faut sur lequel il faut insister. La CGT n'a pas rien fait, mais disons que elle a été très vite on va dire débordée dans la ritualisation de ce que constituaient ces catastrophes. Parce que il faut imaginer que quand on a entendu les corons là dans ces petites cités du Nord, quand il y a une catastrophe comme ça, il y a des obsèques, et des obsèques très spectaculaires.
Oui, on voit les photos d'ailleurs dans les...
On a reproduit des photographies...
C'est très ritualisé.
Très ritualisé, les mineurs ont au moins deux tenues, hein. Il y a une tenue, quasiment un uniforme pour les cérémonies, hein, un uniforme d'apparat. Et là, ils sont tous avec cet uniforme, avec ce foulard,
le casque,
en ligne. Enfin, il y a toute une, et puis il y a toute un, on va dire une scénographie. Il y a évidemment, même si c'est un pays communiste, il y a l'évêque. Il y a les autorités religieuses, donc il y a le ministre, Ortoli, beaucoup de gens qui viennent, et tout ça, c'est une grande cérémonie. Et puis après, les historiens locaux l'ont bien montré. Après, dans chaque commune dont viennent les mineurs, il y a des obsèques particulière. Donc ça veut dire que cette prise en charge collective de la mort, elle n'est pas nulle. Ce serait pas juste. Ce qui se passe dans ces obsèques extrêmement, réglementées, c'est qu'il y a des jeunes gens qui sont là. Alors, qui viennent de Paris, mais qui sont souvent à Lille ou à Lens, qui sont à la fac de sciences, qui sont profs dans les différents villages, qui sont aussi des militants qui viennent sur des modalités d'action très différentes. Et ces militants, ils se réunissent sous la figure du maoïsme. Mais ils ont des modes d'action différents. Il y a un mode d'action qui est extrêmement connu à présent et qui a été très popularisé par le livre de Robert Linhart de 78 qui s'appelle L'Établi. Robert Linhart, un des militants, un des dirigeants de la GP, entrant en octobre 68 aux usines Citroën.
Établi, c'est ça.
C'est-à-dire...
Les jeunes intellectuels qui rentrent à l'usine, quoi.
Voilà, Renault, exactement.
Citroën...
C'est vraiment, de ce point de vue-là, très lié au mot d'ordre de Mao Tse-Tung, hein, d'aller que les intellectuels aillent au champ ou aillent à l'usine. Et ça, il y a ce texte de Robert Linhart qui l'incarne, mais il y a quantité de jeunes gens qui font cette démarche. Collègue Dressen avait écrit beaucoup autour de l'établissement. Donc ça, c'est bien connu. Et puis après, il y a plein d'autres formes d'action. De soutien, de distribution de tracts, de conscientisation, autour des conditions de travail, mais aussi ce qu'on a appelé les nouveaux fronts, le logement. On oublie que ce début 70, c'est le moment aussi où il y a des occupations illégales de logements pour des populations, les personnes précaires. Hein, donc les maoïstes cassent les parpaings. C'est l'occasion pour moi de parler, puisqu'on est aujourd'hui, c'est pas un jour, 1er avril, c'est un jour de blague, mais c'est pas un jour de blague pour plein de gens, c'est un jour, très dur, puisque c'est la fin, en fait, de la traite hivernale, et c'est les expulsions. Et ça me donne l'occasion de dire que, à 17h30, et depuis 19h hier soir, il y a des jeunes comédiens, une trentaine de jeunes comédiennes et de comédiens, qui font du théâtre de rue dans Paris, autour d'un texte de Bernard-Marie Coltès, qui s'appelle La nuit juste avant la forêt, et qui, vous avez peut-être dans le centre de Paris croisé ces jeunes gens disant ce texte, hein, et il sera à 17h30 à La République. Vous pouvez venir les écouter, c'est cette trentaine de jeunes gens autour de ce texte de Coltès, et avec l'idée, et en lien avec les associations de droit au logement. C'est là encore, on va y revenir, mais c'est très, je dirais, c'est assez réjouissant, parce qu'on se dit que y a quand même des modalités d'action qui ont pu passer, hein, puisque parmi les modalités d'action, ces formes, j'allais dire, théâtrales. Hein, hier, j'ai reçu un message, par exemple, tout à fait étonnant, d'un ancien militant qui disait les marionnettes, les fameuses marionnettes de ces années 70 qu'on voyait dans les cortèges, et de 68, mais aussi 70. Je pense à des marionnettes qui contribuaient au défilé et qui étaient, on savait pas où elles étaient et on les a retrouvées. Et cette personne me dit, je sais où elles sont. Donc c'est assez. Il y a deux tendances, hein, chez les Mao. Il y a les Spontex qui sont plus du côté de cette création-là, et puis il y a l'AGP. Et l'AGP, ils sont assez, la gauche prolétarienne. Elle est tendance, assez dure, avec un engagement qui est complet, hein, quand partir en Bretagne dans une usine de conserverie seul. C'est pas simple, surtout quand on sort du, on a été choyé dans une grande école. Et voilà, c'est une modalité. Et puis donc il y a ces occasions aussi, il y a ces événements, ce qu'on a appelé les affaires. Hein, il y a des affaires. Alors il y en a plusieurs dans les années 70, mais Fouquier est une des premières, en fait, dont se saisissent les maoïstes. Ils s'en saisissent d'abord par des distributions de tracts. Bernard Lichia, qui était un des militants de Fouquier, l'a rappelé cette semaine. Ils ont commencé par distribuer des tracts et surtout par perturber, ce qu'on raconte un peu dans le livre, à perturber l'enterrement en distribuant des œillets rouges. Qui était là aussi une évocation, évidemment, d'une histoire récente, enfin, histoire de la résistance. Donc, ces premières actions, c'est d'abord, en fait, des formes d'agitation. Et puis, la deuxième, ça va être quand même ce qui va donner à Fouquier un écho important, c'est que 5 militants vont une nuit tenter d'incendier les grands bureaux.
Les grands bureaux, c'est le siège.
C'est le siège, oui, c'est le siège local. À Hénin.
Des charbonnages de France. Quoi.
Des charbonnages. Et ils vont lancer quelques cocktails Molotov qui ne prendront pas. Enfin, ils vont brûler trois chaises, après avoir vérifié quand même qu'il n'y avait personne dans l'établissement. Hein. L'établissement était vide. Mais cette affaire-là, ils sont arrêtés. 4 d'entre eux sont arrêtés. Il y a Bernard Lichia qui était responsable du Nord, de l'AGP Nord. Lui, il file. Et 4 sont arrêtés. et vont être non pas poursuivis en correctionnel, mais par la Cour de sûreté de l'État. Alors, la Cour de sûreté de l'État, c'est la plus haute, le tribunal le plus important.
Qui a été dissous depuis, d'ailleurs.
Qui a été dissous au début des années 80. Ce tribunal, il a encore une mémoire très... Enfin, comment dire, il est dans l'esprit des gens parce que c'est le tribunal de la guerre d'Algérie et notamment des activistes de l'OAS. Donc c'est très fort symboliquement. C'est-à-dire que c'est plus les militants de l'OAS qui vont passer devant la Cour de sûreté, c'est les jeunes gens qui défendent la cause du peuple, comme on disait aujourd'hui, qui est le journal. C'est vraiment une forme de alors. D'engagement là très j'allais dire radical sans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire ils prennent le risque hein, de faire ça et ils vont être arrêtés, ce qui est quand même pas rien au moment où d'ailleurs leur leader Alain Gesmard est en tôle. Il est en tôle, il y a des manifestations permanentes pour sa libération, il y a Reddit Gesmard, sa femme à l'époque, qui va s'attacher avec d'autres militantes aux grilles de Saint-Lazare, de la gare Saint-Lazare. Il y a toutes sortes d'actions comme ça. Dès l'automne 70, des grèves de la faim, de soutien aux prisonniers. Parce qu'il y a des arrestations, hein, j'ai parlé de ces quatre-là, il y a beaucoup d'arrestations. Il y a aussi l'interdiction du journal, qui est très régulière.
Voilà. Et c'est là que Sartre va rentrer en ligne de bataille, si j'ose dire, où il va aller vendre la cause du peuple, qui était interdite à la vente militante, quoi.
Alors, ça, c'est ce qu'on appelait les démocrates, hein. C'est-à-dire qu'on toutes ces organisations avaient, disons, les amis de la cause du peuple, même si l'association n'a jamais été déposée en préfecture, hein, et les statuts de l'association. Mais il y a des intellectuels qui vont de Simone de Beauvoir, Sartre, Vercors, ancien résistant, mais aussi Michel Vian.
Et puis des artistes aussi, je crois qu'il y a Montand aussi, plus ou moins, oui, dans cette affaire.
Voilà, il y a tout un y a des gens. Après, il y a ces fameuses photos de Caution, des cinéastes, quoi. Truffaut, Godard, qui distribuent la cause du peuple. Mais les vrais, ceux qui vont couvrir et faire en sorte de ne pas pouvoir saisir la cause du peuple, c'est Sartre, parce que en ce début des années 70, Sartre, c'est la grande figure, hein. C'est celui que de Gaulle a appelé maître, en lui disant: non, maître, vous ne pouvez pas. Alors je dis Sartre, j'insiste sur Sartre parce que il a une autre fonction dans cette histoire, qui est celle à la fois d'être très protecteur à l'égard des Mao, très proche aussi de Clavel, de Maurice Clavel, qui est un militant qui est à la fois maoïste, gaulliste, catho, donc qui a des réseaux très 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 forts, y compris des liens avec le pouvoir, et qui écrit à l'époque dans le Nouvel Obs. Et puis Sartre, il a une autre casquette. C'est quelqu'un qui a quand même refusé le prix Nobel de littérature. Donc en matière de refus, il est, disons, tout à fait exemplaire pour bien des gens. Et il a fondé avec Russell,
avec un tribunal,
le tribunal, le fameux tribunal Russell, où ils ont mis en accusation les États-Unis d'Amérique dans leur attaque du Vietnam. C'est important de rappeler ça parce qu'on a un peu oublié cet épisode, enfin qui n'est pas la fondation de ce tribunal, qui va avoir en fait deux moments. Un moment au milieu des années, à la fin des années 60, autour de la guerre du Vietnam. Qui est un tribunal qui rassemble un certain nombre de personnalités intellectuelles et qui entend des témoignages sur les exactions des troupes américaines au Vietnam. Et puis un deuxième moment, après 74, qui est le tribunal Russell II sur les crimes en Amérique latine. Après la chute d'Allende progressivement la prise du pouvoir par les militaires largement aidés on le sait maintenant par la CIA. Donc Sartre il occupe bien il a déjà participé à des mises en accusation comme ça à un niveau international et les Mao ils vont avoir cette idée-là. Ils vont se dire, peut-être que face à un tribunal comme la Cour de sûreté de l'État, il faut peut-être qu'il y ait un tribunal du peuple.
Eh bien, on va y revenir.
My mother called me to her bedside. These words she said to me: "You don't quit your rambling ways, they're gonna get you in the penitentiary. Gonna get you in the penitentiary, poor boy. Gonna get you in the penitentiary. You don't quit your reckless ways, they're gonna get you in the penitentiary." So I set myself down in a gambling game, and I could not play my hand, thinking about that woman I loved, run away with another man. Run away with another man, poor boy, run away with another man. Just thinking about that woman I loved, run away with another man. Cards come around the table, Lord, and I had such a worried mind. My stack of gold dollars I wasted away, and I lost about 99. I lost about 99, poor boy, and I lost about 99. My stack of gold dollars I wasted away, and I lost about 99. It wasn't very long till I seen him again. He run away, left her behind, and I laid him down with my old 44, and the judge gave me 99. Well, the judge gave me 99, poor boy, and he gave me 99. I laid the man down with my big 44, and the judge gave me 99. Well, the jury said that I had to pay, and the clerk, he wrote it down. And the judge called out my number, two sixes upside down. Two sixes upside down, poor boy, two sixes upside down. The judge called out my number, two sixes upside down.
Voilà donc avec Philippe Artière autour de La Mine en procès, Fouquier les lances 1970, donc le livre est en librairie depuis mercredi je crois, c'est ça Philippe, aux éditions Anamosa, hein, donc un livre qui n'est pas qu'un livre puisqu'il y a beaucoup beaucoup de témoignages, et en particulier au-delà de celui de Leroy que tu as évoqué tout à l'heure, qui raconte l'histoire de son point de vue, eh bien pour trouver les coupables ou faire payer les coupables, eh bien il va être inventé ou réinventer un tribunal populaire, d'ailleurs, dans lequel Sartre va jouer un rôle tout à fait éminent, même s'il est assez discret, d'ailleurs. Et les minutes complètes de ce tribunal populaire sont collectées dans l'ouvrage. Et avant de revenir sur le procès lui-même, il y a quand même un débat autour de la justice populaire, particulièrement entre Foucault et Sartre.
Oui, alors le débat, en fait, il fait suite. Il fait suite au tribunal de Lens, puisque, en fait, le tribunal populaire ou démocratique a lieu à Lens. Lens, qui est une ville socialiste à l'époque, et c'est la seule municipalité où on trouve une salle suffisamment grande pour que le samedi 12 décembre ait lieu dans l'après-midi ce procès. C'est pour ça qu'on a dit la mine en procès parce que le projet c'est à la fois de préparer le vrai procès qui aura lieu le lundi suivant devant la Cour de sûreté de l'État pour les militants maoïstes qui ont impliqué dans l'action contre les grands bureaux à Hénin. Mais c'est aussi de donner à entendre et à savoir, d'une certaine manière, ce que c'est que la mine, ce que c'est que cette catastrophe, quelles en sont les causes, et qu'est-ce que aussi on peut reprocher au hier. Alors, ce qui est absolument passionnant et ce qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est concernant l'actualité de ce procès, c'est que si le groupe Information Prison, si l'association Aide ont été nourris par ce qui a pu se passer là, c'est un tribunal, mais c'est pas un tribunal qui juge, c'est un tribunal qui fait un constat, et Sartre va être le procureur, c'est-à-dire qu'il va rassembler les différentes l'acte d'accusation, et il va mettre noir sur blanc les résultats de ce qu'on pourrait appeler une contre-enquête. Lors du procès, ceux qui prennent la parole, c'est les mineurs. Ça va être une brochure qui s'appelle, qu'on reproduit en partie, qui s'appelle « Les mineurs accusent ». Et au sein du tribunal, cet après-midi-là, à Lens, il y a des ingénieurs qui vont expliquer pourquoi, en fait, cette catastrophe était évitable. Et ils vont recommencer ensuite à Liévin. Ils vont recommencer au procès en 75 à l'autre tribunal populaire, parce qu'il y en aura deux, hein, sur la catastrophe suivante. Mais ils vont aussi largement insister sur le fait qu'il n'y a plus seulement les houillères qui savent. C'est-à-dire que ce savoir sur la catastrophe, il doit être partagé, il doit être connu. Et ça, c'est extrêmement important de se dire que c'est peut-être la première fois aussi que ces explications, elles sont rendues publiques, pas seulement dans les annales des mines. Pas seulement dans une littérature très, très spécialisée. Donc, ça, c'est
pas seulement localement, c'est-à-dire que ça va prendre une ampleur nationale.
Ça prend une ampleur nationale aussi, parce que, c'est probablement ce qui ensuite sera le combat principal. Des médecins vont venir témoigner, comme ce qu'on avait essayé de mettre en évidence dans le travail autour des archives du groupe Information Prison, c'est comme à tout la psychiatre, Madame Rose, qui dit voilà ce qui s'est passé à tel moment et à tel moment. Là, il y a des médecins qui viennent et qui disent voilà, c'est ça la silicose. Et sachez que, en fait, plus. Et ça, on en parlait, c'est une des choses les moins connues. C'est-à-dire que plus il y a mécanisation, plus il y a de poussière, plus il y a de risques. Et plus il y a de poussière, plus
les ouvriers travaillaient au pic, il y avait moins de silicose que quand les machines, les haveuses arrachaient la pierre et le minerai, quoi.
Donc ça, c'est les deux. Il y a le, on va dire, les conditions de sécurité et puis la santé générale du mineur et sa mise en danger quotidienne. Qui sont les deux grands piliers du procès, de ce procès, qui va être... alors c'est intéressant parce que pour avoir travaillé sur des sujets qui nous rassemblent aussi avec Radio Libertaire, c'est sur les prisons. Quand j'avais travaillé, on avait fait ce livre sur la révolte de la mutine, enfin sur la mutinerie de Nancy, le 15 janvier 72, donc deux ans plus tard.
Où les polars montent sur les toits, et voilà, des choses comme ça.
Et où six d'entre eux passent à la fin juin, enfin à la mi-juin, devant le tribunal. Il y avait eu une tentative par le GIP et par le Secours Rouge de faire de ce procès une tribune, en fait, et un procès de la prison. Et qui n'a pas fonctionné. Et sans doute, ce qui fonctionne après, c'est quand, à la cartoucherie de Vincennes, Ariane Mouchkine met en scène les minutes de ce procès. Et là, c'est l'inverse, en fait. Là, c'est l'inverse, puisque le procès, devant la Cour de Sûreté de l'État, est précédé. Alors... Et c'est le différent, Bozier, c'est le différent entre Foucault et un des différents entre Foucault et Sartre, c'est de, pour Foucault, on ne peut pas singer les appareils d'État, comme disait Althusser.
Parce que c'est les reproduire, les décisions seront de même nature, quoi.
Voilà, ce n'est pas créer autre chose, c'est reproduire un modèle. Alors, les Mao sont parfaitement conscients de ça aussi. Hein. Ils s'arrangent avec c'est pas un mimétisme pur, puisque il y a pas de jugement en fait. Il y a un jugement, mais il y a pas de condamnation plus exactement. C'est-à-dire, il n'y a pas de personnes qui sont condamnées nominalement. Ça, c'est important. Il n'empêche que les réquisitions de Sartre sont celles d'un philosophe juge. Un philosophe procureur, plus exactement. Et que on va beaucoup reprocher cette position-là à Sartre. Dans ce moment bien particulier du début des années 70, où il y a la loi Marcellin,
sur lequel la première loi répressive, voilà,
c'est la première loi anti-casseur, désigne comme des illégalismes, des formes de mobilisation politique extra-parlementaire. Bon, on y reviendra peut-être dans une autre émission, puisque à la Contemporaine, l'ex-BDIC, l'automne prochain, en novembre, avec Franck Véron, qui est le grand archiviste de cette maison, on organise une exposition autour, justement, de la riposte à cette loi et de comment les organisations des marxistes-léninistes aux trotskistes aux anarchistes agissent. Par rapport à cette nouvelle répression, mais ce qui naît dans ce tribunal populaire, c'est des prises de parole, c'est une forme aussi d'expertise, et c'est peut-être ça qui intéressera le plus Foucault. À travers le témoignage que lui en fait Daniel Defer, c'est ce qu'il va appeler ensuite, un peu plus tard, dans une fameuse discussion avec Gilles Deleuze, d'autres philosophes, les intellectuels spécifiques. C'est-à-dire plus des intellectuels qui sont au-dessus de la mêlée et qui disent, qui montent sur le bidon et qui disent ce qu'il faut faire, mais plutôt... et Foucault n'en est pas forcément un d'intellectuel spécifique, mais plutôt des personnes qui sont en situation et qui produisent du savoir à partir de ce qu'ils connaissent, sur leur lieu même. Prendre au sérieux, au fond, prendre au sérieux à la fois la parole des prisonniers, à la fois la parole des mineurs, ce qui n'était pas le cas. Ouais.
Enfin, non seulement la prendre au sérieux, mais la rendre possible aussi.
Alors c'est la relier, parce que possible, il y a une parole.
Enfin, qui n'était pas diffusée, qui n'était pas popularisée. Quoi.
Voilà. Ouais. Ça, c'est un des autres éléments très, très forts dans ce tribunal. C'est sa médiatisation, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que à travers le Secours Rouge, qui est une organisation absolument nationale avec plein de relais, hein, qui est elle aussi, on l'oublie, mais toutes ces organisations sont très liées aussi au comité Vietnam, c'est-à-dire à ce qui s'est passé au moment de la guerre du Vietnam et à cette manière de tisser, de faire réseau à l'intérieur du pays, de plein de petits groupes, et l'information passe. Alors, c'est une, je crois, un des éléments qui fait que Fouquier devient un événement. Un deuxième événement, le tribunal, après la catastrophe. Et c'est pour ça que, ça va encore prendre une autre dimension avec l'engagement, non plus seulement des maoïstes, non plus seulement d'un certain nombre d'intellectuels, mais aussi non plus seulement les ingénieurs des mines, mais les peintres.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. et maintenant, travaillez encore, forgez l'acier rouge avec mes mains d'or, travaillez encore, acier rouge et mains d'or, travaillez encore, forgez l'acier rouge avec mes mains d'or, travaillez.
Radio Libertaire 89.4, les chroniques syndicales et la philanthropie de l'ouvrier charpentier, avec Philippe Artière, Lamine en procès, donc vous avez compris le pourquoi de ce titre, Fouquières les Lances, 1970, donc catastrophe minière qui a fait 18 morts à l'époque, aux éditions Anamosa. Alors tu évoquais le travail des peintres, alors on peut s'étonner que dans une histoire sociale de cette nature, des peintres vont s'en mêler, mais qui sont aussi des peintres militants, et qui vont participer avec des documents authentiques, si j'ose dire, à la fois la production d'affiches, un peu comme ça avait été fait dans l'atelier des Beaux-Arts en 68, mais aussi au journal d'une veuve de mineur, qui est un document tout à fait émouvant, quoi, où une veuve d'un de ces mineurs-là montre leur vie d'amour avant qu'ils ne meurent.
Oui, c'est Éric de Chasset qui est historien de l'art et qui a avec qui en fait nous avions organisé une exposition qui s'appelait Images en lutte et qui avait retrouvé à l'époque des tableaux de Gilles Ayot, mais aussi de Fromanger, de Gérard Fromanger qui est mort il y a maintenant plus d'un an, et puis de Matelin. Lié à Fouquières. Et il s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, en faisant l'enquête, et c'est lui qui a rédigé cet acte, hein, parce que le livre est composé en quatre actes, la catastrophe et les funérailles, et puis la mobilisation des étudiants des mines, le tribunal populaire, et le quatrième acte, c'est cette mobilisation des peintres qui prend trois formes, en fait. Au moins. La première, tu l'as dit, c'est de contribuer à l'effort, à aider les familles. Et ce journal de la veuve d'un mineur, qui est fait à partir d'un album, en fait, hein, d'un album familial, avec les photos de ce couple, photos de mariage, et de coupures de presse, mais aussi de reproduction de tableaux, eh bien, ce journal, il est... cet objet, qui est signé par... par des gens qui se sont connus l'atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts, hein, en juin 68. C'est Gilles Ayot, c'est l'espagnol antifranquiste Arroyo, mais c'est aussi l'argentin Julio Leparque, c'est plein de gens, c'est Rancillac aussi qui est mort il y a peu de temps, qui était un peintre qui était un peintre très très engagé au sens où il a à la fois fait tout un tas de séries de tableaux sur les Palestiniens, il a fait des tableaux très très Mao, hein, très pro Mao, et ces peintres, ils font un truc assez dingue. On reproduit l'objet, c'est une des pièces qu'on voulait donner intégralement. C'est cette sorte d'album construit à partir de ce qu'on appelle des photographies vernaculaires, c'est-à-dire les photographies de famille, et puis qui est un objet qui raconte au plus près, ce qui est peut-être là aussi intéressant, au plus près, au ras du quotidien, parce que il y a cette image du mineur, très emblématique avec son casque, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le quotidien d'une famille de mineurs? Et les peintres là, ils sont dans ce réalisme là. Ils donnent à voir ça. Donc Ça, c'est la première chose qu'ils font. Et ils le font, ils vendent. Alors, il y a deux éditions. Il y a une édition de luxe hein, pour les collectionneurs qui font par, enfin, qui, voilà, le marché de l'art. Et puis, il y a un tirage moins cher. Et tout ça, c'est l'argent est donné, reversé aux familles des victimes. Et puis, il y a une deuxième... Deuxième chose qui est une exposition. Il y avait eu une salle pour le Vietnam, hein, une salle rouge pour le Vietnam, qui avait été un collectif qui avait produit. Hein, il y en a beaucoup de ces peintres-là qui sont, et c'est ce qu'explique Éric de Chassay, qui sont dans cette première expérience, qui font une exposition pour dénoncer. La guerre du Vietnam. Et là, ils peignent tous sur les mineurs. Alors Matelin, par exemple, il reproduit comme Fromanger, il fait un tableau autour des funérailles. Mais Gilles Ayot, il fait plusieurs tableaux, dont un tableau très très fort. On voit trois mineurs dans ce fameux ascenseur hein, qui descend.
La cage.
Donc il y a ça. Et puis après, ce que ces peintres font aussi, et ce qu'on oublie de dire, c'est que ils ouvrent cette mobilisation sur tout un public qui n'est pas un public qui est forcément sensibilisé. Et ça ne cessera pas parce qu'en fait on oublie à quel point ces collectifs étaient très importants. Je pense à d'autres morts, notamment les crimes racistes, des collectifs de peinture antifasciste hein, qui sont jusqu'aux années 75-76 très actifs et qui produisent des affiches. Citer le nom de Méry Jolivet, qui est un des peintres silencieux, parce que c'est lui qui fait les affiches. Hein, ça, c'est peut-être la troisième action massive, c'est qu'ils ils font beaucoup d'affiches pour les mineurs. Les affiches qu'on reproduit autour de la silicose sont des affiches qui sont en partie signées par... non pas signées, justement, mais qui sont l'œuvre de ces peintres. Ce sera le cas avec Fromanger concernant les prisons. Ce sera le cas aussi pour un certain nombre. Je pense à Monique Friedman qui a signé l'affiche de d'Histoire d'A, qui est le film interdit sur l'avortement.
La méthode Carman, quoi.
Ouais, ouais, voilà. Ouais. Donc ça, c'est important, c'est puisque malheureusement l'émission s'achève, mais c'est l'occasion de rappeler donc ce rendez-vous de 17h30 autour de un autre de ces problèmes de ces questions, de ces plus que des problèmes, de ces luttes autour du quotidien, parce que c'est peut-être ça ce que révèle Fouquier et ce qui nous a intéressé avec les éditions Anamosa. C'est pour ça qu'on a eu envie avec Marie-Pierre Lajot qui est l'éditrice avec qui j'ai travaillé et avec la graphiste Mélie de faire un objet qui soit en prise avec les luttes actuelles. Ça ne veut pas dire qu'il est qui supprime la dimension historique, mais faire en sorte que on puisse disposer de ces documents. C'est vraiment pour moi, je trouve une des fonctions de l'historien et du chercheur, hein, ça s'inscrit dans cette histoire des soulèvements qu'on essaye collectivement de mettre à jour hein, et de mettre au jour, puisque en fait on revoit aussi certains mouvements. Je pense au Larzac, au mouvement du Larzac, puisque pas oublier que 70, c'est octobre 70, bah c'est le moment où Debré annonce l'extension du camp.
Donc ça sera bientôt LIP aussi.
Voilà, ça sera LIP en 73, cette idée de soulèvement, c'est aussi évidemment l'idée de, et c'est vraiment ça qui est au cœur du livre, de faire entendre des voix. Donc allez écouter Bernard-Marie Coltès parce que c'est un immense texte.
C'est 17h30 à la République.
17h30 à la République. Ouais. Et puis par ailleurs, lisez voilà tous ces livres parce que je crois que cette histoire cette histoire que encore une fois on vient toujours après d'autres historiens, il y en a d'autres qui viendront après nous et puis on n'est jamais seul. C'est-à-dire que c'est aussi c'est pour ça que je tiens là aussi à dire combien c'est important qu'un historien de l'art il écrive dans un livre qui est plutôt de l'histoire sociale et que des historiennes comme Michel Zancarini Fournel qui a une vision au long cours de cette histoire là fasse un focus sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui ça cet événement et ces manières de s'insurger, de se soulever. Voilà.
Donc c'est un livre plus qu'un livre, si tu me permets l'expression, sachant que soulèvement est quand même quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a les gens du soulèvement de la Terre qui sont menacés d'expulsion par un ministre particulièrement autoritaire.
Oui, alors cette notion de soulèvement, elle est surtout une action de soulèvement. Et c'est alors on peut le voir d'un point de vue philosophique, effectivement, comme Foucault a pu le théoriser sur subjectivation, c'est-à-dire, mais se dire que peut-être que une des tâches de l'historien, c'est de pointer aussi ces moments de subjectivation, c'est-à-dire de ces moments où des sujets sont entrés dans l'histoire et pas seulement par des petites images, vignettes de leurs portraits, mais ils sont morts au fond de la mine, mais cette mort a suscité l'indignation, mais plus que l'indignation, l'action de plein de gens d'univers très différents.
Oui,
parce que y avait, c'est sur ça que j'aimerais finir, il y a un mot qui est, je crois, un mot de cette époque-là, qui est intolérable. C'était intolérable. Et c'était intolérable pour les peintres, comme pour les militants, comme pour Mao, comme pour plein de gens qui étaient dans le public, c'était intolérable de travailler sous terre dans ces conditions-là, sachant en plus que on savait que c'était dangereux.
Voilà, on va rester sur cette chose et ce travail intolérable que tu évoques avec quelques autres dans La Mine en procès, Fouquier les lances, 1970. Un procès populaire aux éditions Anamosa.